parfum exotique. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Un parfum est né à Paris. Et de tous les coins de la capitale, on est venu, malgré la bise et la froidure, entourer le nouveau-né. Coupe de champagne, mots d'esprit, robes entravées, photographes, papotage, aigrette, journalistes, habits sombres, musique douce, éclairage indirect, martini sec, plante verte, cinéaste, sandwich et petit four, voilà l'ambiance qui entoure le flacon mollement allongé en son coffret d'argent.
Aujourd'hui, ce que nous étudions, c'est l'odorat pur, l'odorat typique et isolable, celui dont les sensations sont le plus souvent excitées par le passage de l'air à travers les premiers vestibules des voies respiratoires. C'est un sens d'une délicatesse et d'une acuité, d'une importance aussi, très variable selon les individus et même les races. D'une façon générale, l'odorat du civilisé, ou plutôt du citadin, est beaucoup moins développé que celui du sauvage ou simplement de l'homme vivant plus près de la nature. J'ajoute qu'en moyenne, je dis seulement en moyenne, il y a toutes sortes d'exceptions, l'odorat masculin est plus développé et plus sensible que celui des femmes. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de femmes se parfument trop.
Croyez-vous qu'une capitale, qu'une ville autre que Paris, puisse se permettre d'entourer la délicate senteur d'un parfum d'une telle pléiade de tel nom, et ce dans le seul but de parer la femme, de souligner sa personnalité? Oh non. Non, seul Paris, je crois, peut en avoir le monopole. L'hôte, le père du parfum, reçoit ses invités et, avec le sourire, passe de groupe en groupe recueillant les approbations ou les critiques de chacun.
Oh, pourquoi Grasse et non pas Grasse? Et pourquoi Nice et non Jolie? Grasse, vous êtes la patrie des fleurs et le berceau de Fragonard. Ne dites surtout pas « pure coïncidence ». Dieu sait bien ce qu'il fait. Et s'il a dit à Fragonard « tu naîtras là », c'est parce qu'il voulait qu'il fût la grâce même. Or, monsieur de Voltaire étant, lui, l'ironie, Voltaire et Fragonard sont la France en personne. Nulle autre part que chez vous, cette expression n'a mieux son sens. Je sors un peu pour respirer. Flair, qui venait du bout du monde, en demandant ici qu'on vous naturalise, fleur, parlez-nous.
Je pense qu'un parfum est toujours la signature d'une femme. C'est la signature d'une femme parce que ça ajoute à son charme ce qui peut préciser ce charme et lui donner un accent particulièrement séduisant.
Nous avons voulu vous faire respirer ainsi le parfum de celle que Paul Arène appelait la gueuse parfumée, la Provence. Oui, nous revenons de Grasse, capitale mondiale du parfum, ou plutôt de l'industrie des matières premières aromatiques. Et dans la patrie de Fragonard, nous avons pu contempler un de ses chefs-d'œuvre délicats, baptisé Sacrifice d'une rose. Oui, Grasse, c'est le lieu sacré où les fleurs se sacrifient.
Monsieur Germain Bazin, conservateur au musée du Louvre et directeur de la revue. Monsieur Varagnac, conservateur au musée d'Antiquité nationale. Monsieur Puech, directeur d'études à l'école des hautes études. Monsieur Jean-David Veil, conservateur au Louvre. Vous voyez, tout ça, c'est très sérieux. Il y a même Louis Réau, membre de l'Institut. Et des gens sérieux, des gens qui ne travaillent jamais que dans les très belles choses. Savez-vous pourquoi ils sont ici?
La principale caractéristique du sens olfactif, c'est que c'est, comme le sens de l'audition, un sens analytique. L'air que nous respirons nous apporte perpétuellement un mélange confus d'une foule de particules et d'émanations parmi lesquelles nous pouvons, avec une facilité plus ou moins grande, mais très développée chez certains individus, distinguer analytiquement plusieurs composantes et les rattacher à des origines diverses.
Pour l'amour de l'art. L'amour de l'art, qu'est-ce que c'est? Une revue, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Une coupe de champagne? Oui, il y a beaucoup de champagne. Eh bien non, ils viennent chercher des parfums. C'est invraisemblable, mais aujourd'hui, tous ces hommes sérieux sont devenus brusquement frivoles, mais frivoles! Ils ne pensent plus qu'à une seule chose, des fleurs et des parfums.
Les fleurs, ces humbles et pures merveilles qui vivent dans le paradis provençal, sont malaxées dans les alambics pour devenir parfums. L'art des parfums est un des plus anciens et des plus mystérieux du monde.
Sauf certains détails et une gamme infinie de nouveaux produits, la jolie femme d'aujourd'hui n'est pas tellement éloignée de son aïeul, qui à son petit lever se plongeait dans un bain chinois à pâte d'amande parfumée, se faisait polir, poncer, masser, parfumer, avant de venir s'asseoir devant sa coiffeuse pour y parachever une œuvre qui devra faire d'elle, sinon la plus belle et la plus jolie, du moins la plus charmante. Et de tous les sortilèges dont elle usera pour multiplier ses chances de séduction, le plus efficace peut-être, mais certainement le plus insidieux, c'est le parfum.
Et la toute-puissance de l'odeur, Pierre-Louis l'a chanté. Cette toute-puissance de l'odeur qui, comme un voile embaumé de rose et de lavande, conserve après 100 ans la jeunesse du jour.
Et ce que j'aime tellement dans le monde des parfums et le monde des fleurs, c'est que ce sont des phénomènes sensibles qui nous touchent sans qu'ils appellent jamais aucune espèce de doctrine théorique, esthétique ou philosophique. C'est la sensibilité à l'état pur, et croyez que pour nous, c'est une espèce de recharge.
Il y a des associations d'idées très puissantes entre les parfums et les souvenirs de toutes sortes, visuels, auditifs ou tactiles. Association d'idées, cela veut dire exactement pouvoir psychique de reconstituer, à propos d'une donnée sensorielle isolée, tout le contenu d'un état d'âme passé, avec tous ses détails et sa structure d'ensemble.
Fragonard a placé presque tous ses modèles sous les feuillages de rêve, dans les prairies émaillées de fleurs, près des bosquets aux guirlandes de roses et de jasmin, qui ont fait dire à un critique « les tableaux de Fragonard sentent bon ». Et qui dit fleurs dit délicatesse, poésie, parfum. Qui dit fleur dit parfum, et qui dit parfum dit femme.
Seulement voilà, les femmes aujourd'hui ne savent plus se parfumer avec la même délicatesse et la même sûreté de goût qu'autrefois. Ne vous est-il pas arrivé déjà, bien des fois, d'être incommodé d'une odeur musquée trop prenante qui vous faisait souhaiter un courant d'air? On ne peut évidemment pas en tenir rigueur aux parfumeurs d'offrir maintenant au choix des femmes un trop grand nombre de parfums.
Pour moi, un parfum, c'est une essence. Je dirais que c'est en quelque sorte l'essence d'une substance. C'est la matière au moment où elle se dématérialise et où elle devient esprit, où elle devient subtile, où elle est insaisissable. C'est cela pour moi un parfum.
Une imperceptible odeur de goudron ou de varech accidentellement mêlée un instant à l'atmosphère urbaine peut faire surgir en nous avec une intensité extraordinaire et nostalgique tout un paysage marin, toute une journée au bord de la mer, toute une période de vie même.
Il n'y a aucun mystère pour trouver un parfum, c'est une question de nez tout simplement. On ne peut pas analyser un parfum comme on analyse une matière première, une bergamote, un jasmin, une rose, par les produits, par les analyses normales.
Comme un parfum respiré dans l'enfance peut faire renaître une foule de souvenirs perdus, reparaître un jardin oublié, une personne disparue, et donner presque un caractère hallucinatoire à cette résurrection.
Nous autres, nous avons à notre possession notre nez. Comme le tartovin a son palais, nous autres, nous avons le nez, nous faisons la sélection exactement comme un tartovin le fait par son palais.
Ce n'est pas seulement le parfum d'une fleur, ça peut être aussi le parfum des vertus ou l'odeur des saintes.
Il y a 3 procédés pour extraire le parfum des fleurs. Ici, ce sont les bains-marie, c'est le premier procédé. Là, dans ces bains-marie, nous mettons de la graisse de bœuf et de porc. Et nous mettons les fleurs à macérer dans la graisse pendant 24 heures. C'est chauffé à la vapeur et au bout de 24 heures, la graisse est saturée de parfum.
Non, madame, se parfumer n'est pas aussi simple qu'on veut bien le croire. C'est un art délicat, sournois. Il convient de pratiquer avec une extrême sensibilité, un tact infini. Parce que justement, de toutes les armes mises à votre disposition par la nature, c'est le plus insidieux.
Alors nous l'enlevons dedans les bains-marie et nous la lavons dans de l'alcool à 96 degrés, dans des batteuses que je vous ferai voir tout à l'heure.
C'est surtout ce qui vraiment accroche le souvenir. Quand soudain un souvenir remonte en vous, c'est souvent un parfum qui l'a fait venir.
Alors maintenant, je vais vous montrer les bains-marie, c'est-à-dire la distillation, qui est le second procédé. C'est la distillation des fleurs qui ne sont pas délicates du tout, telles que la fleur d'oranger, la lavande, la rose blanche, la rose de Bulgarie que nous recevions autrefois de Bulgarie.
Et ce ne sont pas toujours les souvenirs les plus doux, ce sont quelquefois les plus douloureux que le parfum soudain avive.
Nous sélectionnons, nous factionnons les parfums en disant il y a tant de grammes de tel produit, tant de grammes de tel produit, tant de grammes de rose, jasmin, santal, vétiver ou n'importe quoi. Et on arrive par des essais à équilibrer la ressemblance des deux parfums, celui que l'on imite et celui qui est le vrai.
Sachez-vous parfumer, madame, et n'essayez pas tout nouveau parfum lancé par telle ou telle grande maison. Il est peu probable qu'il vous convienne.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le problème de la recherche du temps perdu chez Marcel Proust doit sa solution finale à l'odeur d'une tasse de thé, aussi bien qu'à un certain goût de madeleine mêlé à cette odeur, goût qui pour le psychophysiologiste est lui aussi une donnée de l'odorat.
Un parfum bien composé contient, comme un paysage de poussins, des premiers plans directement accessibles et des lointains estompés. Il doit être construit et équilibré comme un édifice architectural.
Bien, je veux dire que le champagne n'a pas beaucoup de succès. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas le champagne qui a du succès. Ce sont les parfums. Toutes ces femmes, tous ces hommes graves, ils ne pensent qu'à une seule chose. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent frais, ça sent les fleurs et ça sent le parfum.
Qu'il s'agisse en effet de vocabulaire, l'ouïe et la vue viennent volontiers au secours de l'odorat désemparé. Prenons, si vous le voulez bien, ces premiers mots de base qui me viennent à l'esprit. Parfum, parfumé, parfumeur, c'est par là même nous souvenir de vocables anciens mais non sans grâce, tels que parfumaison, parfumement, perfumement, sans oublier l'expression vendeur de parfum au sens de flatteur.
Dès que la vapeur bout, n'est-ce pas, dès que l'eau bout, la vapeur entraîne l'essence contenue dans les fleurs, dans le col de cygne qui vient rejoindre un serpentin en forme de spirale, qui est dans de l'eau froide, ça condense la vapeur et elle s'écoule par le bec que vous voyez là, c'est-à-dire par le morceau de tuyau dans les essenciers, ou que l'on appelle essencier ou vase florentin.
C'est pas une sélection chimique, ça c'est une sélection naturelle, parce que les produits chimiques, on peut les analyser, on peut retrouver les constantes et tout ce qu'on peut trouver, mais dans les produits naturels, nous n'avons pas d'analyse automatique, dans les produits composés, dans les parfums composés surtout. On ne peut pas faire une analyse dans les produits composés. Vous ne pouvez pas dire par analyse, par tout ce que vous voulez, il y a tel et tel produit dedans. La fraction se fait par le nez, le fractionnement se fait exactement par le nez.
C'est aussi interroger l'histoire. L'histoire de ces parfumeurs, de ces testonneurs, experts en l'art de friser le poil, qui fournissaient les dames de l'abbaye Thélème d'eau de rose, de fleurs d'oranger et d'eau de feuilles de myrte.
Alors là, nous avons l'essence qui est une huile, huile essentielle donc, qui reste à la surface, et l'eau distillée qui est décantée, qui s'écoule par le côté. Alors certaines de ces eaux distillées sont récupérées, telles que l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, l'eau de laurier cerise pour les pharmaciens. Et dans les fleurs, nous utilisons soit les pétales, soit la tête de la fleur. Et pour la lavande, nous mettons même les tiges. Et il faut une moyenne de 1000 kg de fleurs pour obtenir 1 kg d'essence.
C'est ranimer, enfin, le passé odorant des parfumiers dont parlent Montaigne et Olivier de Serres, et percevoir l'écho, à travers des siècles fleurons-bons, la violette, l'iris, le musc, la civette, de la rivalité qui, si longtemps, opposa deux corporations, les Merciers et les Gantiers, lesquels prétendaient au nom de parfumeurs, les premiers parce qu'ils vendaient des parfums, les seconds, parce qu'ils en fabriquaient.
Ne faites pas non plus comme cette jeune femme qui, après s'être frictionné le corps d'une autre colonne cuir de Russie, s'était fait parfumer les cheveux d'un excellent Chypre par son coiffeur et, rentrant chez elle, avait enfilé une robe qui laissait derrière elle un sillage frais de gardenia de Lelon. C'est là une manière de trahison du parfum. Et la compagnie de cette jeune femme donnait une forte migraine et un irrésistible désir d'une promenade solitaire plutôt que la recherche d'une plus grande intimité.
La femme française représente la petite femme de Paris, l'amour, le parfum, les toilettes, c'est ça. Je pense que j'essaie de représenter à peu près ça aussi.
Comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose, la grâce dans sa feuille et l'amour se reposent, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battus ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt, feuille à feuille déclose.
tout à l'heure de Scriabine, il a précisément fait, il y a déjà de cela plus d'un demi-siècle, il a réalisé en Union soviétique, plutôt en Russie, des concerts avec des projections de couleurs, oui. Avec des changements d'éclairage, avec des projections de parfums, et dont il attendait en quelque sorte quelque chose comme d'un art total.
Nous avons donc là encore affaire à un sens dont les pouvoirs esthétiques sont très intenses du point de vue de la sensation, du point de vue du sentiment, du point de vue de l'imagination et même du point de vue de l'intelligence.
Le parfum qui, du matin au soir et du soir au matin, obsède la femme, la caresse, la cajole.
J'ai pensé que d'abord nous étions à l'époque chaude des fleurs, qu'ensuite il y a toujours une vogue pour le parfum. À cette époque-ci encore plus grande, parce que les femmes étant plus nues se mettent peut-être davantage de parfum, parce qu'elles ont besoin de s'habiller, et le parfum habille une femme, et même peut-être la déshabille.
En général, on peut dire qu'un parfum, par exemple pour les brunes, c'est des parfums qui sont assez capiteux, assez puissants, assez vanillés. Tandis que pour les blondes, il faut des parfums beaucoup plus fleuris, beaucoup plus élevés, beaucoup plus frais.
Une autre toilette, par exemple, se voudra boisée, lavandée ou maritime. Et les variations sont infinies qui vont de parfumé, parfumage, etc., à odorant, odorance, odourance, odoré, odoreux, odoration, odoratif, odoriférence. Et soudain, voici arôme, qui de nos jours est devenu un de ces petits prétentieux dont raffolent les friands du style endimanché.
La brune ressort les parfums qui contiennent des produits animaux, comme le musc, la civette, l'ambre. Tandis que les blondes, les vraies blondes, parce que nous avons encore une histoire de cheveux qui rentre en jeu, on croit une blonde et finalement c'est une brune. Et le parfum ne va pas tout à fait avec elle.
Il se dit d'aucuns, comme d'Alexandre le Grand, que leur sueur épandait une odeur suave par quelque rare et extraordinaire complexion, de quoi Plutarque et autres recherchent la cause. Mais la commune façon des corps est au contraire. Et la meilleure condition qu'ils aient, c'est d'être exempt de senteur. La douceur même des haleines plus pures n'a rien de plus parfait que d'être sans aucune odeur qui nous offense, comme sont celles des enfants bien sains.
Je ne vois pas la différence qu'il y a entre du parfum et du vin. La différence est la pensée de l'homme qui est différente, c'est tout. Mais de mettre de l'alcool avec un peu d'extrait de rose ou de musc ou de noblement de donner à la vie de la vigne de servir dans des bouteilles et de le présenter sur une table, je ne vois pas quelle différence d'avilissement ou de vulgarité ou de...
Dans une majeure partie des essences naturelles, les corps chimiques dont nous avons d'ailleurs besoin et dont nous ne pourrions pas nous passer n'interviennent les trois quarts du temps comme des compléments d'odeurs naturelles, mais jamais, en tout cas en ce qui concerne notre maison, comme substituants de produits naturels. Donc la fabrication d'un parfum, ça consiste à peser très soigneusement les constituants d'une formule établie une fois pour tout.
D'effluve en effluence, de relent à remugle en passant par fumet, et à ces senteurs pernicieuses que l'argot baptise moufette ou moffette, le parfum, c'est encore, pour peu que l'on se pique de poésie, une brise, un bouquet.
Pour les brunes, un parfum très puissant, très capiteux, très patchouli, très animal, si vous voulez. Une blonde, un parfum beaucoup plus fleuri, dans les genres rose, lilas, les fonds, rose, lilas, jasmin et tout. Ben, une rousse, vous savez, elle est assez différente parce qu'il y a malheureusement pour les rousses, je m'excuse pour les rousses, elles ont une odeur très spéciale et qui dénature assez facilement les parfums.
Effectivement, les femmes utilisent le parfum, parce que, enfin, c'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent depuis le moment où elles se lèvent jusqu'au soir où elles se couchent. Elles se lèvent, elles font leur toilette. Tous les produits qu'elles utilisent sont des produits parfumés, que ce soit le rouge à lèvres, la poudre, le fond de teint, etc., etc. Ensuite, avant de sortir, elles se parfument. Quand elles rentrent, elles refont encore un brin de toilette, soit avec une savonnette, soit avec d'autres produits qui sont également parfumés. En sortant pour aller à un cocktail, elles se parfument encore. Le soir, avant d'aller au théâtre, elles se parfument, elles se poudrent à nouveau, elles refont un maquillage. En rentrant en fin de journée, elles se démaquillent et elles utilisent encore des produits qui sont entièrement parfumés.
Méfiez-vous, surtout si vous êtes réservé des parfums tels que Tabou ou Habanita.
Même si, trop timide pour le dire ouvertement, vous recherchez la compagnie de quelqu'un. Là encore, vous seriez trahi et votre proie éventuelle pourrait se méprendre sur votre caractère et même sur vos intentions. Non, restez ce que vous êtes et ne demandez pas au parfum de souligner autre chose que votre personnalité.
C'est extrêmement variable et ça peut aller, dans le cas minimum d'une dizaine ou d'une quinzaine d'essences, jusqu'à, je dis bien en ce qui concerne nos formules, car je ne connais pas celles de nos confrères, à une cinquantaine d'essences.
Il faut dire aussi que les odeurs naturelles de nos ancêtres ne devaient pas être toujours agréables. Agrippa d'Aubigné disait qu'il fallait qu'un vrai noble eût un peu l'aisselle surette et les pieds fumants.
On commence par essayer de trouver les différentes matières qui entrent dans la composition du parfum. J'ai, par exemple, ces dernières années, j'ai senti 102 parfums différents en l'espace d'un an. Et quand je dis 102, je ne dis pas 102 tout fait. Je dis 102 modifiés constamment et, pour ainsi dire, quotidiennement.
On peut chercher un nom plus ou moins féminin, un nom évocateur de l'amour, un nom évocateur d'une activité autant que possible féminine, un nom touchant la musique, etc., etc.
Je crois que l'être humain s'est parfumé à peu près en même temps que lorsqu'il a commencé à s'habiller, c'est-à-dire lorsqu'il manifeste le souci d'améliorer son apparence et de faciliter sa vie sociale. Et c'est une des fonctions essentielles du costume, et je pense que c'est aussi une des fonctions du parfum.
Depuis ce matin, les métros sont parfumés. Les badauds en ont pour leur argent. Non seulement ils sentent le parfum, mais ils le voient et ils l'entendent. Ils entendent son pchit sympathique car le vaporisateur est fixé derrière les rames de métro et il est synchronisé avec l'ouverture et la fermeture des portes.
Vous êtes fine et distinguée ? Oh, que vous êtes gâtée ! La gamme infiniment subtile des sortilèges, des indiscrets, des 5, des 9x9, des noirs, des mitsuko, des crêpes de Chine s'offre à vous. Il ne reste plus qu'à votre caractère d'arrêter son choix sur celui qui lui convient le mieux. Mais faites bien attention avant de vous décider.
Rassurons d'ailleurs ceux qui auraient l'odorat trop délicat, ce parfum est extrêmement léger. Il y a simplement un métro sur 5 sur chaque ligne qui vaporise. Mais même les délicats auront le plaisir d'apprendre que ce parfum est avant tout un bactéricide et que bientôt l'atmosphère du métro sera la plus pure de Paris.
En Europe occidentale, chaque femme un peu célèbre a eu le sien. On connaît ainsi ce qu'on appela le secret d'Agnès Sorel pour avoir un teint de lait. Des fleurs de nénuphar, de fèves et de roses jetées dans un litre de crème chauffée au bain-marie. Le secret de Diane de Poitiers, du bain-joint, de la girofle, du musc et de la muscade pilés dans un mortier.
Il y a une grande corrélation entre les parfums et les vins. Par exemple, les parfums sont à base, la plupart du temps, de jasmin. Or, le jasmin doit être récolté sur la même terre, à la même époque, pour avoir la même senteur. Autrement, le parfum change complètement.
Celui de Madame de Maintenon. Une once de savon de Venise, une demi-once de jus de citron, un quart d'once d'huile d'amande douce, le tout arrosé de 30 gouttes d'huile de rose. Quant à Madame de Sévigné, elle joignait l'utile à l'agréable en usant d'une certaine eau d'émeraude, à la fois comme remède et comme parfum. « Je mets d'une eau d'émeraude, écrit-elle à sa fille, si agréable, que si je ne la mettais sur ma jambe, je la mettrais sur mon mouchoir. »
Ce qui est certain, c'est que les parfums égyptiens ont joué dans le monde antique, je parle du monde avant l'ère chrétienne, le rôle que jouent à peu près les parfums fabriqués à Paris aujourd'hui dans la société occidentale, c'est-à-dire que c'est un produit extrêmement trafiqué, extrêmement vendu sur tous les marchés, à tel point que nous connaissons dans la Grèce du temps de Périclès des procès de contrefacteurs de parfums égyptiens.
Nous diluons cette essence concentrée dans des proportions diverses, suivant qu'il s'agit de faire un extrait, c'est-à-dire le parfum, une eau de toilette ou une eau de cologne. Nous diluons donc ce concentré dans des volumes d'alcool variables suivant la concentration désirée.
La force de travail est, je pense que comme la mémoire, on les développe
que quand il existe une mémoire olfactive comme la mémoire tout court, et cette mémoire est très malléable quand on est jeune, elle l'est sûrement beaucoup moins après un certain âge. C'est un entraînement physique, comme tout ce qui concerne la mémoire, que ce soit la mémoire des sons ou la mémoire des mots. Je crois que c'est le côté de l'odorat qu'on peut développer le plus facilement. Le reste, c'est un problème beaucoup plus intellectuel. Mais la mémoire olfactive se développe parfaitement bien. Et pour faire de la parfumerie, la première qualité est nécessaire, indispensable, mais pas suffisante. Mais c'est en tout cas d'avoir une mémoire des odeurs.
Il est quand même certain qu'il est tout à fait anormal que la parfumerie n'ait pas de musée. Et ceci est d'autant plus important que des projets du musée de la parfumerie existent à l'étranger. Il y en a un au Japon, il y en a un en Italie et il y en a un aux États-Unis, où on s'intéresse depuis fort longtemps non seulement à tous les aspects de l'art français, avec un grand A majuscule, la peinture, etc., mais où on s'intéresse de très près, et je dirais presque d'une façon plus ancienne que nous, aux arts du costume.
Et nous avons voulu faire profiter tous les Parisiens du Faubourg en vaporisant du muguet à l'extérieur. Alors non seulement toute la rue en est embaumée, mais Rosanne a eu l'idée charmante de mettre du muguet à tous les étages, ce qui fait que du rez-de-chaussée jusqu'au ciel, on n'a jamais vu du muguet aussi haut.
Je crains que si les choses continuent, il faille chercher une partie de la mode française et de la haute couture française aux États-Unis, qui... De la même façon qu'ils ont systématiquement prospecté la peinture impressionniste, etc., etc., à la fin du siècle dernier, depuis 40 ans, il y a eu en France, de la part des Américains, des achats massifs de toute espèce d'objets illustrant la haute couture française. Et je sais qu'il y a également, sur cette lancée, un projet du musée de la parfumerie aux États-Unis.
Respirer, vertu du verbe respirer, respirer les fleurs et les parfums. Mais pour respirer, il faut avoir un nez. Et vous le pensez bien, le sens olfactif est le premier de tous quand il s'agit de fleurs et de parfums.
Dans les salles climatisées, comme on dit, que les techniques modernes réalisent pour le concert ou les présentations filmées, il n'est pas du tout impossible qu'on puisse arriver à de curieuses réalisations en ce genre. Certains même les anticipent et nous annoncent pour un avenir prochain des films parfumés, comme on a des films en couleur et comme on essaye des films donnant la sensation du relief.
L'œillet sur les lignes Vincennes, Neuilly, Ballard, Charenton, Pont-de-Sèvres, Mairie de Montreuil, et si vous préférez au parfum des jardins celui de la campagne, vous n'avez qu'à aller sur la ligne Clignancourt, Porte d'Orléans, où vous avez droit à l'essence de pin, une sorte de petit voyage entre Bordeaux et Dax.
Voilà pourquoi Diplôte, la plus exquise senteur d'une femme, c'est ne sentir rien. Et les bonnes senteurs étrangères, on a raison de les tenir pour suspectes à ceux qui s'en servent et d'estimer qu'elles soient employées pour couvrir quelques défauts naturels de ce côté-là.
Là, en ce moment, ce sont des fixateurs qui infusent dans de l'alcool. Le fixateur, c'est ce qui fait tenir le parfum. C'est la partie du parfum, c'est une essence qui fait tenir le parfum. Certains sont utilisés comme base et d'autres alors uniquement comme fixateur. Il y a le fixateur animal tel que le musc, la civette, l'ambergris, le castoreum. Et nous avons le fixateur végétal. Il y a la fève de tonka, il y a la mousse de chêne, le coriandre, le vétiver, le benjoin, baume de Pérou, baume de Tolu.
Il y a dans l'usage du parfum, comme dans l'usage du maquillage, un désir de modifier, un désir d'améliorer, d'essayer d'améliorer la nature. Et je pense que les produits de beauté dont se servaient les Égyptiennes ont très vite été parfumés. Nous savons ces recettes extraordinaires que donnent les temples, enfin les textes que l'on a retrouvés en Égypte, et où l'on voit expliquer que telle eau rendra le visage plus jeune et fera perdre 20 ans au visage. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut chercher la vieille renommée de l'usage des parfums et du maquillage, c'est qu'il s'agit toujours d'obtenir une amélioration de l'espèce humaine, une amélioration de l'apparence qui rendra la vie plus agréable et plus facile.
Et permettez-moi, madame, avant de vous quitter, une remarque personnelle. La délicatesse de l'odorat, comme celle de la vue, de l'ouïe, du goût, craint la satiété et appelle la variété. Diderot disait « La satiété des choses agréables conduit aisément à la fadeur ». Vous avez trouvé la perfection dans un parfum qui est devenu votre favori, c'est très bien, mais n'oubliez pas qu'il existe certainement quelque autre parfum dont la base est la même, mais dont les effluves, en variant légèrement, ajouteront au charme de votre personne. et croyez-moi, vous y gagnerez de le sentir vous-même sensiblement différent, et l'intérêt de ceux qui vous connaissent sera excité par cette nouveauté discrète.